C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Le pont de l'île aux Tourtes donne beaucoup de maux de tête à plein de monde. Dans l'ouest de Montréal, donne beaucoup de maux de tête aussi au ministre des Transports François Bonnardel, au maire des villes environnantes. Et là, excellente nouvelle, la réouverture partielle du pont était prévue pour lundi prochain. Ben, il semble que ça va être dès demain. C'est ce qu'a annoncé François Bonnardel. Le maire de Vaudreuil-Dorion, M. Guy Pilon, est au bout du fil. M. Pilon, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
Ça a dû égayer votre journée, cette nouvelle-là?
Oui, mais c'est ce qu'on nous apprend à un moment donné quand on a certaines formations. On appelait ça l'effet « wow ». T'annonces que tu vas te faire arracher un bras, puis en fin de compte, tu vas juste arracher un doigt. Fait que là, waouh, je suis content. Je tiens premièrement à remercier M. Bonnardel, il a tenu sa promesse. Bon, ils ont mis du monde, ils ont mis des efforts, et ça va rouvrir. Moi, j'en suis bien content. Les automobilistes vont être contents. Mm-hmm. Là, ce qui est positif là-dedans, M. Degassé, c'est qu'on va permettre le transport en commun, transport scolaire. Donc, on vient d'enlever, parce que dans notre région, dans Vaudreuil-Dorion surtout, la commission, excusez, on peut pas appeler ça commission scolaire, le centre des services éducatifs, le centre des services scolaires, peu importe, vous savez ce que je veux dire, il avait fermé les écoles, 16 étaient fermées, 14 ouvertes, et là, graduellement, ça va se faire, parce qu'il y avait vraiment un mot de tête, je me mets à la place des parents, là, on est encore dans la COVID, on réussit à s'en sortir un petit peu, en fin de semaine, on va pouvoir commencer à ouvrir un peu les terrasses, et là, on vient de recevoir cette plaque-là en pleine gueule, donc, c'est positif. J'espère que les autres dates aussi vont être avancées, mais il s'est pas lancé là-dedans. Mais c'est très positif, M. Lagacé, mais il faut trouver des solutions à long terme autres que du patchage sur le pont de l'île aux Tourtes.
C'est ce que vous avez déclaré la semaine passée, là, quand on a annoncé que le pont allait être fermé. Vous avez dit c'est du niaisage. Vous avez dit le pont aurait dû être reconstruit avant. Le rendez-vous manqué dans tout ça, M. Pilon, c'est quoi?
Le rendez-vous manqué, monsieur, c'est exactement la même chose qui se passe sur la 20, dans Dorion, secteur Vaudreuil-Dorion, Dorion. Ça fait 60 ans que les terrains sont expropriés, il n'y a plus rien pour finir la 20. La 20, c'est le seul endroit au Canada, où la 20 passe encore à travers un milieu urbanisé avec des lumières de circulation, des autobus et des piétons. Donc, si cette 20-là avait été terminée il y a 5, 10, 15 ans, je ne sais pas quoi, bien, quand il arrive une bad luck sur la 40, puis il va en arriver d'autres, là. Il sait juste qu'il y a un accident, une grosse tempête, puis ça bifurque sur la 20 et vice-versa. Mais si au moins ça avait été fait, je répète, 60 ans, bien, quand il arrive une malchance comme ça, bien, la 20 pourrait l'absorber. Présentement, c'est l'enfer dans Vaudreuil-Dorion, sur le côté de la 20, parce que la 20 ne peut pas prendre les 90 000 véhicules que le pont de l'île aux Tourtes prenait. Il y a eu des gros efforts de fait, là, la SQ, EXO, tout le monde, mais ça nous prouve simplement qu'on doit compléter nos deux points majeurs, c'est-à-dire les autoroutes, la 40 et la 30. Je veux juste spécifier que 70 à 75 % du commerce entre le Québec et l'Ontario passe par là, soit en train, soit en auto. Puis en même temps, le commerce qui passe vers les États-Unis. Donc, c'est pas juste une question d'auto ou de travailleurs, c'est aussi les liens des liens principaux de commerce entre deux pays.
Monsieur Pilon, bon, vous êtes maire de Vaudreuil-Dorion, vous connaissez bien cette région-là, là, dans l'ouest de Montréal. On parle de négligence politique, dans le fond, pour reconstruire le pont de l'île aux Tourtes plus rapidement. On parle de négligence politique pour ce qui est de faire une autoroute 20 qui ne soit pas un boulevard urbain là, qui passe dans les villes et dans les villages. Qu'est-ce qui explique cette négligence politique de la région?
Je vais vous donner un exemple. Sur la 20, plus loin, Beaconsfield, Biddeford, là, il y avait aussi le même problème. Il y a eu un gros accident il y a plusieurs années, 5 morts, 7 morts. Et là, le gouvernement a agi. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Dans bien des cas, vous remarquerez les autoroutes quand elles se sont refaites au Québec ou les coins, c'est parce qu'il y a eu des morts. Je pense qu'en tête, vous avez déjà...
La côte des éboulements, ben oui.
Bon, ben c'est ça. Ben ça prend des morts, ça prend des accidents, puis ça prend, c'est comme si on nous disait, pour un autre coin où on avait demandé une baisse de vitesse parce que ça n'a pas d'allure, c'était au provincial, on nous a dit, non, il y a juste eu un mort à date dans les dernières 10 années. Et on ne l'a pas fait. Mais je pense aussi que quand vous regardez la carte politique du Québec, j'ai l'impression, à un moment donné, on était acquis avec un parti, puis là, bon... C'est l'autre parti qui
avec le Parti libéral.
Ben oui, ça fait 20 ans, 20, au-dessus de ça. Il y en a eu des études de possibilité. Oui. Là. Puis là, M. Bonnardet, qui est ministre, a promis que ça se ferait lors de l'élection avant, parce que sans ça, il ne se présentait pas ou je ne sais pas quoi.
Fait,
oui. Je pense qu'il y a, pas je pense, je sais qu'il y a du politique là-dedans, puis ça, c'est correct qu'on investisse un troisième, un quatrième, mettez-en 10 liens à Québec. Là.
Oui,
ça
ne
me dérange pas, ça. OK, mais pour 15 000 autos? Il y en a 60 000 ici sur la 20. Il y en a 90 000 là-bas. Fait qu'on peut-tu avoir des priorités basées un peu peut-être, mais pas trop sur le politique.
Et sur l'achalandage. Merci beaucoup, M. Pilon. Bonne chance avec tout ça.
Ben, vous êtes bien gentil, M. Lucassé.
OK, on va parler de vaccination parce qu'aujourd'hui, Christian Dubé, le ministre de la Santé, a confirmé que la deuxième dose du vaccin AstraZeneca, pardon, était devancé. On en parle avec Dr. André Veillette. Il est immunologiste à l'Institut de recherche clinique de Montréal et membre du groupe de travail sur la vaccination contre la COVID. Dr. Veillette, pardon, bonjour.
Bonjour.
Peut-être nous rappeler d'abord pourquoi Québec avait décidé d'étirer à 16 semaines l'intervalle entre les deux doses d'AstraZeneca.
Je pense que d'abord et avant tout, c'était parce qu'on avait très peu de doses qui arrivaient à ce moment-là. Vous vous souvenez, c'était au mois de décembre où ça arrivait littéralement au compte-gouttes. Il y a des semaines, les arrivages étaient cancellés même, annulés.
Mm-hmm.
Alors, je pense que dans ce contexte-là, ils voulaient évidemment vacciner le plus de monde possible. Et puis, il y avait des évidences avec le vaccin d'AstraZeneca en Grande-Bretagne que le vaccin marchait très bien si on espaçait la première et la deuxième dose à 12 semaines. Donc, c'est dans ce contexte-là que je pense qu'il y avait eu une argumentation faite qu'on devrait vacciner le plus de monde possible et qu'on devrait avoir un intervalle qui ont poussé jusqu'à 16 semaines à ce moment-là. C'est même qu'on est arrivé, je pense, avec cette stratégie.
Ça avait été jugé un peu téméraire en certains cercles, là, mais finalement, est-ce qu'on peut dire maintenant que ça a été une bonne stratégie?
Moi, j'étais un des critiques, puis un des critiques que je faisais, c'était que je trouvais qu'il n'y avait pas d'évidence scientifique claire que ça allait fonctionner. Je pense que ça l'a certainement aidé certaines personnes, ça l'a probablement nuit à d'autres personnes, et puis je pense qu'il va falloir faire le bilan à un moment donné pour voir ce que ça a nuit plus que ça a aidé, ou ça a aidé plus que ça a nuit, puis je pense que l'INSPQ est en train de faire les études là pour évaluer l'impact de notre stratégie de vaccination. C'est sûr que c'était évidemment quelque chose qui était assez facile à justifier dans le contexte d'une pénurie de vaccins. Mais là, de plus en plus, on reçoit des vaccins. Et puis, il y a des évidences qui s'accumulent, comme vous savez probablement, que peut-être c'est pas idéal, en fait, d'avoir un si grand intervalle. On voit ça avec certaines populations, des gens plus fragilisés. On le voit avec certains variants, par exemple, en Grande-Bretagne, où ils ont décidé eux-mêmes de diminuer l'intervalle à 8 semaines pour les 50 ans et plus, avec le variant indien qui commence à prendre un peu le dessus là-bas. Alors, je pense qu'avec l'arrivée des vaccins et ces évidences-là, je pense que maintenant, c'est tout à fait logique de retourner en arrière avec la stratégie et d'essayer de diminuer l'intervalle entre les deux doses le plus possible.
OK. Une question que beaucoup de gens se posent, Dr. Veillette, là, c'est si j'ai reçu une première dose d'AstraZeneca et que maintenant, il y a d'autres types de vaccins qui sont disponibles, est-ce que, vu certains petits risques, là, mais risques quand même, devrais-tu prendre l'Astra pour la deuxième dose ou un autre vaccin?
Ça, je pense que les gens, ça va être des décisions qu'ils vont avoir à prendre à un niveau individuel. Je pense qu'il n'y a pas de réponse claire. C'est certain que le vaccin d'AstraZeneca, c'est un excellent vaccin. Il fait la job qu'il est supposé de faire. À deux doses, il fonctionne très bien. Comme vous avez dit, il y a certaines complications. Bon, il y a de risque là, qui est très bas. C'est un sur 100 000. Maintenant, ils disent des fois 66 000 de thrombose avec la première dose. Il semble que ce soit 10 fois moins fréquent avec la deuxième dose. Mais bon, c'est compréhensible que les gens aient une certaine appréhension. Je sais qu'il y a des gens qui ont reçu AstraZeneca qui vont prendre AstraZeneca. Ils ont déjà décidé. Il y a d'autres gens qui veulent pas avoir d'AstraZeneca. Il y a une population qui est entre les deux. Alors, je pense qu'il va falloir que le gouvernement donne le maximum d'informations pour que les gens puissent prendre leur décision, à savoir ce qu'ils vont faire. Et évidemment, ils peuvent aussi en parler à leur médecin, qui, je pense, est probablement la personne qui, du point de vue santé, les connaît le mieux. Mais j'ai entendu beaucoup de gens qui ont déjà décidé ce qu'ils allaient faire. Et puis, je pense que le gouvernement est très ouvert, quoi qu'ils l'ont pas dit dans des mots très clairs, là, qu'ils sont très ouverts à l'idée de mélanger deux vaccins ensemble.
OK, le gouvernement est ouvert, mais scientifiquement, avoir une première dose d'AstraZeneca puis une deuxième de Moderna ou Pfizer, est-ce que c'est valide?
Ah, ça, c'est la très bonne question. Alors, je pense que si on regarde ce concept-là qu'on appelle de vaccination hétérologue, où on donne un vaccin une fois, puis un autre vaccin une autre fois, ça a été fait pour d'autres vaccins, pour d'autres maladies, puis ça marche très bien. Dans le cas de la COVID-19, évidemment, ça n'a pas été encore fait à une grande échelle, et c'est la question qu'on se pose. Il y a eu des études qui ont été faites chez des souris, ça a l'air de très bien marcher, mais encore là, c'est pas des humains, c'est des souris. Il y a une étude qui est sortie d'Espagne la semaine dernière sous forme de communiqué de presse où il semblait que le mélange de vaccins comme ça, vaccination hétérologue, aussi donnait des très bons résultats. Mais il y a surtout une étude en Angleterre qui est en cours, qui, d'après ce que je comprends, les résultats devraient arriver d'ici la mi-juin, où ils examinent en fait différentes combinaisons comme ça de vaccin A avec vaccin B ou vaccin B avec vaccin A pour voir s'assurer que quand on mélange, en fait, que c'est au moins aussi efficace.
Vraiment intéressant. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui, Dr. Veillette.
C'est moi qui vous remercie.
Patrick Lagacé en accéléré.
OK, on va parler d'éducation. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, était aujourd'hui encore une fois sur la sellette, encore une fois, suite à de nouvelles révélations du journaliste de Radio-Canada, Thomas Gerbet, qui suit le dossier de la ventilation dans les écoles, disons, avec beaucoup d'assiduité. Le ministre Roberge a affirmé à de nombreuses reprises que la santé publique avait validé, j'insiste sur le verbe « valider », ces tests de qualité de l'air à l'école. On sait désormais que ce n'était pas vrai. Si quelqu'un disait que c'était validé, c'était le ministère de l'Éducation et surtout le ministre de l'Éducation, parce que la santé publique n'avait jamais validé la façon de faire ces tests-là qui ont été contestés par beaucoup de scientifiques. Et aujourd'hui, ben, on a su plus de détails sur les échanges entre le ministère de l'Éducation, le cabinet de M. Roberge et la santé publique. Il semble que la santé publique n'était vraiment pas contente d'être instrumentalisée. On en parle avec la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation, Marois Risky. Madame Risky, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous étonne dans les révélations, dans les courriels qui ont été exhumés aujourd'hui par le journaliste Gerbet?
Quelle saga, on apprend à chaque fois davantage. Il faut se rappeler que vous avez reçu M. Roberge à votre micro sur ce sujet et il s'est défendu en disant qu'il a fait une erreur de bonne foi et que c'était un débat sémantique. Mais Dr. Arruda a dit que lui a manifesté cet inconfort d'avoir été en quelque sorte instrumentalisé, donc qu'on a prêté des intentions à la santé publique. Et moi, j'ai tenté le 5 mai au Salon Rouge en posant trois fois la question, M. Roberge, je voulais savoir, est-ce que vous avez délibérément menti ou c'est véritablement une erreur de bonne foi? Je donne la chance au coureur. Il a refusé de répondre. Aujourd'hui, avec les révélations de Thomas Gerbet, c'est clair, il a menti, puis il savait qu'il mentait depuis le mois de février. Alors, quand moi, je lui ai posé la question au Salon Bleu le 23 mars, c'est délibérément qu'il a fait le choix de ne pas dire la vérité. Et un professeur de Québec qui a tweeté la chose suivante. Roberge est un ancien prof. Le travail d'un prof, c'est d'apprendre aux jeunes le sens des mots, entre autres. Pour ce qu'ils utilisent les bons mots toute leur vie. La sémantique, c'est important. Donc, Roberge le sait très bien en choisissant ses mots pour mentir. Fin de citation d'un professeur de Québec.
Qu'est-ce que vous pensez de l'explication du cabinet selon laquelle, ben, c'est le sous-ministre de l'Éducation qui aurait suggéré au cabinet que la santé publique lui avait dit que ça avait été validé?
C'est vrai. Franchement gênant. Là, on met en dessous de l'autobus le sous-ministre. Je rappelle qu'on avait déjà congédié l'autre sous-ministre qui avait été choisi par M. Roberge, qui lui a été dégommé au mois d'octobre. On a dépêché Alain Sancartier. C'était le choix du premier ministre. Donc, c'était vraiment pour venir encadrer M. Roberge. Puis là, aujourd'hui, ben, un autre bouc émissaire, c'est jamais la faute de M. Roberge. Et hier soir, on a vu la valse de sous-ministres. 3 sous-ministres sur 6 qui ont été remplacés hier soir.
OK. Il y a le Dr. Richard Massé, là, qui est conseiller médical stratégique au directeur national de la santé publique, donc de la santé publique du ministère, qui a dit dans un échange de courriel là, qui a sonné les cloches du ministère de l'Éducation. Il a dit « Là, c'est assez. Je suis pas d'accord qu'on nous mette des mots dans la bouche et je ne veux plus en entendre parler. Je suis pas d'accord pour écrire que le processus semble conforme. » Parfait. Là, on sait que la santé publique n'était pas d'accord avec, disons, les ambitions du ministre Roberge. Mais trouvez pas ça bizarre un peu, Madame Risky, que Monsieur Docteur Massé là soit quand même allé dans les conférences de presse avec Monsieur Roberge pour parler de ventilation dans les écoles. Il a quand même accepté de se faire instrumentaliser.
Je ne sais pas s'il l'a accepté, mais clairement son silence était assourdissant. Et j'essaie de me mettre dans ses souliers parce que, tu sais, c'est sûr que moi, au mois de mai, politicienne, c'est facile pour moi de critiquer. Mais j'essaie de revenir en arrière. Au mois de février, on était en train de gérer une pandémie. On fermait nos écoles, on fermait nos commerces, on ajoutait la mesure du couvre-feu, plein de nouvelles restrictions. Et le numéro 2 de la santé publique est appelé à jouer dans le film de M. Roberge pour essayer de le sauver. Alors, c'est pas un politicien aguerri, c'est un médecin qui essaie de gérer une pandémie, qui en a plein les bras. Ça fait un an qu'il est là-dedans. J'essaie de mettre à sa place, là. Je comprends que lui, il a peut-être dit, hey, j'ai pas envie de causer un émoi, parce que c'est quand même, là, c'est gros, là. C'est une grosse histoire. Alors, j'ai l'impression que lui essaie de sauver la chèvre et le chou en même temps, puis qu'il a malheureusement là-dedans, ça a échoué.
Mais
c'est autant pour le ministère de l'Éducation que pour lui, là.
Mais ça montre, écoutez, la santé publique n'est pas sortie publiquement, Dr Massé ou d'autres, pour dire, écoutez, le politique est en train de nous instrumentaliser. Ça dit quand même que les fonctionnaires de la santé publique au Québec ne sont pas indépendants.
Absolument. Puis vous-même, vous avez titré santé publique ou santé politique. Aujourd'hui, la réponse est évidente, c'est santé politique. Dr Arruda aurait pu sortir, Dr Massé aurait pu sortir, mais se sont sentis liés au gouvernement. Ils étaient dans l'incapacité de nous dire la vérité. Moi, j'ai pour dire que la vérité, on peut la retarder, mais on ne peut pas la tuer.
OK, on peut retarder la vérité, mais on ne peut pas la tuer. Bien d'accord avec vous là-dessus. Mais la vérité, là, c'est que nos écoles sont vieilles, nos écoles sont mal ventilées. Êtes-vous d'accord avec moi, Mme Risky, pour dire que, qu'importe la couleur du gouvernement, là, il n'y a pas un gouvernement au Québec qui aurait pu se retourner en 3 mois pour ventiler toutes les écoles comme du monde?
Non, puis c'est pas ça que nous, on leur a demandé. Moi, je me rappelle ce que j'ai demandé là, à l'automne dernier, depuis le 17 août, c'est d'avoir au moins un plan avec des détecteurs de CO2 ainsi que des purificateurs d'air avec filtre HEPA. On a même chiffré ça. En fait, c'est Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois qui est avec l'idée des capteurs de CO2, moi avec les purificateurs d'air. Les deux mesures ensemble, capteurs de CO2, c'est environ 6 millions de dollars, purificateurs d'air avec filtre HEPA, c'est 80 millions de dollars. Donc, pour moins de 100 millions de dollars, on a été capable de faire au moins le nécessaire là, pour passer à travers la pandémie. Et c'est d'ailleurs ce que l'École de la santé publique de Harvard recommandait. Je suis d'accord qu'on ne peut pas réparer un parc école là, entier là, en une fraction de seconde. Ça, je suis très consciente. Mais à tout le moins, faire ce que les écoles privées et les écoles anglophones ont fait, ajouter des purificateurs d'air, ça aurait été le minimum. Puis aujourd'hui, le ministre sort pour dire ben, cet été, on va acheter des détecteurs de CO2 qu'on va installer dans les classes. On a fait cette demande-là, là, conjointe, avec tous les partis d'opposition au mois d'octobre ainsi qu'au mois de novembre.
Merci, Mme Risky.
Merci à vous.
OK, le Canadien fait face à l'élimination ce soir à Toronto lors du 5e match de la série Canadien-Toronto. Comment on se prépare à un tel match? Comment ça se passe dans le vestiaire? On va parler à quelqu'un qui connaît le Canadien, qui connaît les vestiaires des Canadiens, parce que Benoît Brunet, ancien numéro 17 du club, a joué avec l'équipe pendant plus d'une décennie et a gagné la Coupe en 1993. Salut Benoît!
Salut Patrick!
Comment ça se passe dans le vestiaire là, à quelques minutes d'un match comme ça? C'est quoi l'état d'esprit des joueurs qui sont acculés au pied du mur?
Probablement très nerveux. Moi, je pense que le plus important pour l'équipe et le vestiaire, c'est de gérer ton stress, gérer ta nervosité. Je l'ai vécu du côté positif, je l'ai vécu du côté négatif. C'est des fois, on a tiré de l'arrière dans des séries et on l'a perdu, peut-être parce qu'on a mal géré notre stress, puis on a mal géré ce qui va se passer sur la glace après. Puis en 93, j'aime pas ça revenir dans mes vieux souvenirs, mais le match numéro 5 au Forum, on l'avait quand même assez bien géré. Puis c'est là que tu as besoin du leadership solide au niveau du vestiaire pour t'assurer là, que les gars vont être prêts. Mais je te dirais là, par expérience que ça jasera pas beaucoup au niveau du vestiaire. T'sais, tu vas avoir tes séances de vidéo, tes meetings, puis après ça, tu te prépares. Personne ne va parler, mais il y en a un ou deux qui vont le faire, là, les gars qui sont plus solides au niveau du vestiaire. Puis après ça, tu sautes sur la glace, puis c'est là que ça va se passer. C'est quand tu vas sauter sur la glace, il faut que tu gères ton stress, il faut que tu ailles le couteau entre les dents, puis il faut que tu sois capable de sortir. Ce que le Canadien, Patrick, n'a pas fait au cours des 3 derniers matchs. T'sais, je pensais au dernier match, cette espèce-là, une échappée dans les 5 premières minutes, un 2-1, un jeu de puissance. C'est là que ça va jouer. Là. Ça va jouer sur la glace en première période, puis il faut que le Canadien soit prêt. T'sais. Tu ne veux pas être trop excité, mais assez excité là, pour avoir un peu d'adrénaline et être fonctionnel en première période, ce que le Canadien n'a pas réussi à faire au cours des 3 dernières défaites.
Mais Benoît, je reviens sur ce que tu disais. Il n'y a rien. Je veux dire, dans les films, dans l'ancien compte, etc., le coach va faire un discours, il y a quelqu'un qui va casser un bâton, il y a quelqu'un qui va essayer de sortir le club de sa léthargie. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe.
Ça pourrait arriver, sais-tu quand? Après la première. Après la première période, là, si c'est 2-0 Toronto, puis le club sort pas, là, il y a peut-être un Shea Weber ou un Brendan Gallagher qui va se lever et qui va rincer tout le monde. Ça pourrait arriver. Ça peut-être, c'est peut-être déjà arrivé dans cette série-là. C'est à ce moment-là. Avant le match, brutalement, c'est quand même assez calme. Puis tout le monde a leur petite routine personnelle pour s'assurer d'être prêt. Puis après ça, 15-20 minutes avant, là, quand tout le monde est là puis les gars attachent leur patin, bien là, c'est là qu'il y a une couple de gars qui peuvent prendre la parole. Puis c'est tes leaders qui font ça habituellement. Puis après ça, tu sautes sur la glace, l'échauffement, puis le début de match. Mais si jamais ça va pas bien, c'est pas toujours à l'entraîneur à faire ce job-là ou à l'assistant coach de venir voir les gars après une période. Des fois, il faut qu'il y en ait un qui se lève. Puis c'était peut-être plus récurrent ou ça arrivait peut-être plus dans notre temps parce que le hockey a changé au niveau de tout ça. Là. Mais non, ça pourrait arriver ce soir. S'il y en a un qui n'est pas content puis le Canadien ne joue pas bien en première période, ça pourrait arriver, mais ça arrive pas aussi souvent. Je suis convaincu que dans les années 80-90.
OK, donc, les mentalités ont changé. Parfait.
Ouais.
Dis-moi, là, le club a choisi de faire entrer dans l'alignement Gustavsson. C'est une décision qui passe assez mal là, chez les analystes et chez les fans. On aurait espéré voir M. Romanov. Est-ce que c'est une décision qui te surprend?
Je suis pas surpris d'un côté parce que le jeu de puissance va pas très bien. Puis Gustavsson, c'est un spécialiste un peu du jeu de puissance. Moi, ce qui me stresse, c'est qu'habituellement, quand tu places un spécialiste du jeu de puissance, puis on l'a vécu quand Halak avait été exceptionnel, Marc-André Bergeron le faisait, fait qu'on habillait 7 défenseurs. Tu habilles 7 défenseurs, puis là, tu te dis, ben, je vais l'utiliser un peu à 5 contre 5 ou des situations à 4 contre 4. Là, Gustavsson peut être efficace, puis après ça, en avantage numérique. Mais là, tu places un gars qui a joué 5 matchs en fin de saison pour le Canadien, que Philadelphie ne voulait pas, puis là, tu le places dans le match le plus important de la saison. J'ai hâte de voir le temps de glace que Shea Weber, Petrie, tous ces gars-là vont avoir ce soir. Parce que si jamais ça commence pas bien pour lui, là, quand il va sauter sur la glace, Patrick, à 5 contre 5, tu pourras pas le faire jouer. Tu peux pas le faire jouer. Fait que, tu sais, il y allait avec 7 défenseurs. Là, t'as Stahl qui est vieillissant, t'as Perry qui est vieillissant, t'as une couple de gars qui sont peut-être amochés. Là, tu veux pas te retrouver non plus rapidement avec seulement 10 attaquants. Fait que pour moi, c'est une drôle de décision. Moi, Romanov, c'est un gars d'énergie. Il est jeune. C'est ce qu'il fasse des erreurs. Mais au moins, il va t'amener quelque chose que Gustavsson ne peut pas t'amener.
On a congédié le coach pendant la saison pour le remplacer et le résultat, je te dirais, ça se ressemble beaucoup au Benoît Brunet. Est-ce que le problème du club, c'est au niveau de la glace ou dans les officines?
Écoute, la voix, là, ça n'a pas changé grand-chose parce que Marc Bergevin, ce qu'il nous a dit, puis c'est plein de choses bizarres encore qui sont arrivées cette année. T'sais, Stéphane White qui se fait congédier après une période puis qui s'en va, puis c'est le grand chum à Bergevin, puis on travaille ensemble à Chicago. C'est des choses pour moi qui se fait pas. La voix, puis quand tu dis c'est du pareil au même, je te dirais même que c'est peut-être pire. Puis, t'sais, j'en parlais un peu tantôt avec Alain, on a travaillé ensemble après-midi. T'sais, tu regardes la fin de saison, c'est défaite par-dessus défaite, puis là, tu gagnes le premier match à Toronto, puis c'est 3 défaites consécutives. Puis là, Patrice, ce soir, Patrick, je peux pas te dire comment le Canadien va sortir. J'en ai aucune idée. Je suis là-dedans depuis des lunes. J'ai aucune idée quel genre de performance le Canadien va nous offrir ce soir. C'est pas normal rendu à cette stade-ci de la saison.
Écoute, t'as joué dans la dernière, disons, partie où le club était glorieux. T'as gagné en 93. Comme ancien joueur, là, quel regard tu portes sur le club? Puis, je te dirais, le lien que les Québécois ont avec le club depuis 20 ans.
Écoute, moi, je peux te le dire, parce qu'habituellement, quand je regarde un match de hockey, mon téléphone, des textos, j'en reçois de moins en moins. De moins en moins de mes chums qui regardent le hockey, qui sont des fans de hockey, j'en reçois de moins en moins. Fait que je ne sais pas si les gens sont désintéressés, désabusés des performances du Canadien au cours des dernières années. Ça, je le vois. Puis, c'est l'approche, moi, qui me dérange, parce que je trouve qu'on a mis beaucoup de pression sur nos jeunes. Tu sais, Kotkaniemi, il n'était pas assez bon de jouer le premier match, mais il a joué tous les matchs en saison régulière. Tu sais, Romanov, c'est la même chose. Il a joué 54 matchs, pas assez bon de jouer le premier match en saison régulière. Puis là, on a donné l'équipe à ces gars-là à la position la plus difficile à jouer dans la Ligue nationale. C'est quand tu veux te développer comme joueur, puis on dit toujours que la Ligue nationale, c'est pas une ligue de développement, mais là, tu dis à Keke, à Suzuki, puis à Jake Evans, là, vous allez être nos joueurs de centre, puis c'est vous qui allez nous guider vers les plus hauts sommets. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis c'est pas contre eux que j'en ai, c'est de la façon qu'on les a amenés dans la Ligue nationale, je pense qu'ils n'ont pas fait... C'est ça qui est difficile à comprendre, c'est qu'on leur a donné l'avenue peut-être la plus difficile. Tu sais, Keke, pour moi, là, c'est un gars qui aurait probablement dû passer par les mineurs une couple d'années, puis après ça, il est arrivé à Montréal, puis devenir un excellent joueur de hockey. Fait qu'il faut que tu fasses attention à tout ça, parce que, tu sais, c'est l'avenir de l'équipe, ces gars-là. Quand tu repêches, puis tu vas chercher Suzuki dans une transaction, tu veux les avoir à long terme avec l'équipe. Puis là, on a dit, allez-y, les boys, c'est à vous autres. Vous avez bien joué dans la bulle l'an passé, puis vous allez nous amener plus loin qu'on pensait que peut-être on va aller, puis finalement, ça ne fonctionne pas. Pour moi, là, c'est très, très difficile, Patrick, de jouer à la position de centre. Moi, j'étais un ailier, puis j'étais très, très content d'être un ailier dans la Ligue nationale, parce que pour les joueurs de centre, là, la responsabilité d'être bon dans les deux sens de la patinoire, c'est très difficile.
Hey Benoît, merci beaucoup pour ces observations, puis bon match. Je te souhaite quand même d'avoir plein de textos ce soir. Salut.
Patrick, bye.
Salut. Benoît Brunet, ancien numéro 17 du Canadien, gagnant de la Coupe Stanley en 93, aussi analyste à RDS.
Patrick Lagacé en accéléré.
Est-ce que vous connaissez l'astéroïde Psyché 16? Il fascine la communauté scientifique parce qu'il pourrait être composé en grande majorité de métal. Ça, il semble que ce soit surprenant. La NASA, l'année prochaine, va envoyer une sonde pour tenter d'en savoir plus. On va en parler avec Loïc Albert. Il est astrophysicien à l'Institut de recherche sur les exoplanètes de l'Université de Montréal. C'est un spécialiste d'instruments astronomiques qui travaille notamment là, sur, disons, appelons ça la Rolls-Royce des télescopes spatiaux, le James Webb qui est en construction. Loïc Albert, salut!
Oui, bonjour Patrick Lagacé.
Où se trouve Psyché et comment on va y arriver?
Oui, alors Psyché, ben il se trouve, c'est dans la ceinture d'astéroïdes. C'est la ceinture d'astéroïdes, c'est peut-être 100 000, 200 000, vraiment beaucoup de billes de roche qui orbitent entre la planète Mars et la planète Jupiter. Et donc entre les deux là, c'est la ceinture d'astéroïdes. C'est pas comme dans les films quelque chose de, avec des astéroïdes qui se frappent l'un contre l'autre tout le temps, mais il y a quand même beaucoup d'objets à cet endroit-là. On pense en fait qu'il y a une partie de ces astéroïdes-là qui proviendrait d'un corps qui aurait été plus gros, qui se serait désintégré.
Donc, ce qu'on dit, là, c'est que dans cette ceinture d'astéroïdes, il y a Psyché 16. Et Psyché 16, c'est dur à dire, Psyché 16 est différent en quoi des autres astéroïdes?
Oui, bien c'est là que ça devient vraiment intéressant, en fait. C'est que Psyché 16 est composé, on pense, de métal. Puis pourquoi c'est intéressant qu'il y ait du métal? Bien, s'il faut suivre un peu la petite histoire entre le lien entre les astéroïdes dans la ceinture d'astéroïdes et les météorites qu'on a sur Terre. Sur Terre, vous savez bien sûrement qu'il y a des météorites qui tombent du ciel et qu'on étudie et on peut, ce qui est assez formidable, c'est de prendre des spectres, des signatures de la lumière réfléchie par ces météorites sur Terre et d'essayer de voir s'il y a une correspondance dans l'espace. Parce qu'on sait qu'ils viennent de l'espace, mais d'où? Et sur Terre, donc, on a trouvé plusieurs classes de météorites. Et la plupart, ben, c'est des roches. Hein? C'est de la roche qui tombe. Et puis, mais il y a une certaine fraction très petite, là, quelques pourcents, qui sont des météorites de métal. Et c'est là le lien avec Psyché 16. C'est que si on regarde l'empreinte spectrale des météorites de métal qu'on a sur Terre, ben, on a exactement le même match avec Psyché 16 comme astéroïde à 400 millions de kilomètres. Donc, on pense qu'il y a certains météorites dans la classe des mésosidérites qui viendraient de leur mère Psyché 16, en fait. Et pourquoi ce serait du métal? Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est qu'on pense que Psyché 16, ce serait le restant du cœur d'une ancienne planète qui était
donc une planète qui aurait explosé.
Ben c'est
ça. Ça serait désintégré.
Exactement. On sait que dans la ceinture d'astéroïdes, c'est un endroit qui est gravitationnellement instable parce qu'il y a la planète Jupiter pas loin qui a tendance à faire du brassage gravitationnel et à faire des collisions entre les objets. Donc les objets se brisent. Donc si une planète s'est formée là, elle se serait ensuite, il y aurait eu des collisions, elle se serait carrément désintégrée. Elle aurait laissé des gros morceaux un peu partout, dont Psyché 16. Et on pense que quand une planète se forme comme la Terre, il y a un phénomène physique qui se produit, c'est la différenciation chimique. C'est-à-dire que ce qui est lourd comme les métaux, ce qui est qui est dense, mais ça a tendance à couler vers le centre de la planète mm-hmm. par la gravité. Puis ce qui est plus léger, moins dense, ben flotte, un peu comme la laque.
Et c'est pour ça qu'on aurait un noyau dur très, très dense au centre de la Terre, c'est ça?
Exactement. On pense qu'au centre de la Terre, il y a un noyau de fer, de nickel, entouré d'un manteau de roches moins dense, c'est-à-dire comme des silicates et puis des carbonates. Et ça, il y aurait la même chose qui se serait produite dans la planète, dans la ceinture d'astéroïdes, qui serait maintenant désintégrée. Donc, on aurait affaire, ni plus ni moins, à un noyau de planète. Et c'est ça qui est quand même, quand on y pense, on va avoir la possibilité d'étudier en détail le noyau d'une planète terrestre. C'est comme si on était capable d'aller dans notre propre planète pour aller étudier en détail ce qui se passe.
Parce que c'est ça, là, la NASA va envoyer une sonde là-bas l'année prochaine. D'abord, la sonde va mettre combien de temps à se rendre entre Jupiter et Mars?
Oui, elle va prendre plusieurs années. Donc, c'est envoyé en 2022. Il y a un voyage qui va passer par à côté de Mars pour aller tirer un petit peu de jus ou d'énergie gravitationnelle de Mars, pour aller jusqu'à Psyché. Et on va être à Psyché en 2023, en mai 2023. On va y rester à peu près 2 ans. Alors, ce qui est particulier avec la sonde Psyché, qui a le même nom que l'astéroïde qu'elle étudie, c'est qu'elle a un moteur à propulsion d'ions. C'est quelque chose qu'on a tous vu dans Star Trek, là, pour les plus vieux d'entre nous. Star Trek, l'Enterprise, fonctionne avec un des deux moteurs, c'est un moteur à propulsion d'ions. Donc, c'est quelque chose qui existe pour vrai, qui a déjà été démontré dans l'espace. Il y a une autre sonde précédente qui avait fait un survol d'astéroïdes comme ça avec un moteur similaire. Donc, ça prend l'électricité du soleil avec des panneaux solaires gigantesques. Ça accélère des ions de xénon à très haute vitesse, puis ça se propulse tranquillement, pas vite, mais continuellement, ce qui fait que c'est capable d'aller jusqu'à la ceinture d'astéroïdes.
Dernière question. Qu'est-ce que l'humanité a à gagner à connaître la composition d'un immense rocher qui orbite aux confins de l'espace?
Ben là, il y a deux réponses à ça. Celle que je préfère vraiment, c'est qu'on va enfin en apprendre plus sur comment exactement le noyau d'une planète se forme. Est-ce que nous, on a une vision très simpliste pour l'instant, que c'est un noyau pur de fer et de nickel, mais on sait déjà que Psyché 16 a des structures. On est avec le télescope Hubble actuellement, de très très loin, on arrive à deviner un petit peu des structures sombres et plus brillantes sur la surface. Donc, ça va nous apprendre comment se forment les planètes telluriques comme la Terre, Mars, Vénus, etc. Donc, la réponse, en fait, c'est ce que j'ai vu beaucoup aussi dans les médias, c'est que on va découvrir essentiellement des millions de tonnes de métal, de nickel, de fer qui ont une valeur commerciale, mais qu'évidemment, on ne sera jamais capable de rapporter ça. D'ailleurs, la sonde ne va pas se déposer sur l'astéroïde, elle va seulement le survoler en orbite.
Vraiment très intéressant. Toujours intéressant de parler d'astrophysique et d'espace avec vous, Loïc Albert. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce soir.
Ça me fait plaisir.
Salut, Loïc Albert est astrophysicien à l'Institut de recherche sur les exoplanètes de l'Université de Montréal.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.